Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Et aujourd'hui, on parle de musique avec la grande Sophie, dont le dernier album, Cet Instant, est sorti il y a quelques semaines. Dans cet album, c'est principalement le temps qui passe, qui est pris comme sujet par Sophie, qui enfile les rouages sur 9 chansons, mais pas seulement. Car cet album, c'est aussi pour elle l'occasion de se renouveler, notamment avec le piano, qui est un instrument qu'elle ne maîtrisait pas auparavant. Et avec la grande Sophie, on parle ensemble de ce temps qui passe, qui peut être ravageur comme naturellement salvateur, de sa manière d'écrire et de composer des chansons pour elle comme pour les autres, ou encore de son rapport à la scène. Et pour information, elle sera à l'Olympia le 12 décembre. Bonne écoute! Bonjour Sophie!
Bonjour. On prend un café, on explique la situation, on est en train de discuter et puis il y avait notre café qui allait refroidir et juste quand tu m'as dit bonjour, j'étais
tu
en train de boire
une petite gorgée. Si je te dis que cet album parle du temps, je pense que tu seras d'accord avec moi. Si je te dis qu'il parle du passé comme quelque chose qui ne doit pas laisser place à la nostalgie, au regret, est-ce que c'est un bon résumé ?
Oui, le temps, c'est véritablement mon obsession depuis mon premier album, d'ailleurs. C'est vrai que cet album, pour moi, c'est important que tu parles de nostalgie sans regret, puisque la nostalgie nous tourne dans le passé. Mais moi, j'enlève les regrets parce que je voulais souligner au contraire les points marquants, les liens marquants surtout, les rencontres que j'avais pu faire. Et c'était important donc de me retourner sur ce passé, mais ne pas oublier le présent surtout.
Jamais.
Cet album, pour moi, c'est une façon de dire savourons ces petits instants, aussi petits qu'ils soient, parce que parfois, dans des petits instants, il y a aussi des grands bonheurs. Il faut savoir les apprécier, en fait. Voilà, souvent, on se retourne dans le passé avec des amis, on se parle de souvenirs ou on se projette, mais finalement, ce présent, il faut savoir aussi le savourer, oui.
Dans cet album, qui est ton 8e album, tu as fait plus de place au texte parce qu'on te parlait beaucoup, et certainement beaucoup trop, de tes mélodies. En quoi c'était problématique selon toi ?
En fait, moi je cherche toujours à me renouveler quand j'écris un album. C'est important pour moi d'avoir cette ligne en tête, amener quelque chose de nouveau, parce que je trouve qu'on est multiples et je ne suis pas que l'énergie qu'on connaissait à mes débuts. Et là, j'avais entendu sur les bruits de couloir, tu sais, quand on parle de toi, on te parle de tes mélodies, on te dit oui, la grande Sophie, c'est la mélodie. Et je me suis dit mince, en fait, ce que je raconte, peut-être que j'ai pas été assez exigeante, peut-être que on m'a pas assez, ma voix était pas assez claire. Je me suis posé tout un tas de questions et j'avais envie moi de travailler mes textes encore et encore et de faire très attention à la voix, de la mettre en avant.
Ouais. Quel rapport d'ailleurs tu entretiens avec ta voix ? Est-ce que c'est une amie ? Est-ce que tu as appris à l'aimer ? Est-ce que tu la travailles beaucoup ?
Alors, je la travaille peu, malheureusement, si mes profs de chant que j'ai pu avoir m'entendaient. J'ai la chance d'avoir une voix très solide, assez vaste aussi, ample. Je peux aller dans les graves et dans les aigus. J'ai longtemps, en fait, refusé ma voix de tête. J'arrivais pas à m'y faire. Et puis avec un titre comme Suzanne qui est arrivé sur mon 6e album, c'était une façon d'amener aussi un élément nouveau de ma voix et de l'accepter comme ça. Mais ma voix, en fait, je suis pas trop, moi, pour la performance. Donc tout ce qui est performance, chanson, chanteuse, performeuse, tout ça, ça va pas me toucher, en fait.
Qu'on oppose souvent au texte, d'ailleurs.
Je regarde la technique, mais pour moi, ça reste de la technique. Et moi, ce que je recherche dans une chanson, c'est avant tout de l'émotion, être saisie par quelque chose qui va me toucher. Ça peut être une maladresse. Donc, je me dis qu'il faut savoir utiliser aussi ces maladresses. Et dans ma voix, je vais aussi chercher les recoins où je suis pas allée. Je m'amuse avec aussi.
Il y a même une chanson sur la pointe des pieds qui est une chanson a cappella.
A cappella, oui. Qui est un petit clin d'œil aussi, cette chanson sur la pointe des pieds, avec le travail qu'on a fait, la lecture musicale qu'on a fait avec Delphine de Vigan, la romancière, mon amie maintenant. l'une et l'autre, c'était une super rencontre. Et puis, c'était un spectacle très intime. Il y avait beaucoup d'a cappella. Il y avait juste une guitare et nos deux voix. Et je me suis dit, bon, ben voilà, ce spectacle n'a pas été enregistré. On l'a joué sur scène. Tu as chanté a cappella sur scène. Lance-toi sur ton album. Écris une mélodie a cappella.
Oui, et c'est dommage d'ailleurs que ce spectacle n'ait pas été enregistré. Je pense que ça aurait été assez joli.
Il existe un enregistrement en vidéo que nous n'avons pas encore vu, mais c'était vraiment pour des archives pour nous.
Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui a un pouvoir sur tes textes, notamment celui de te les faire modifier?
Oui, alors je travaille deuxième gorgée de café. Je prends mon souffle et je bois.
Allez hop, on y va.
c'est important d'être bien entouré. Et ouais. J'ai rencontré des gens extraordinaires depuis mes débuts. Et là, je travaille depuis près de 20 ans avec ma manager qui s'appelle Judith Lévy. On s'entend, c'est pour moi, on s'entend parfaitement, on est très différentes. Et c'est un peu ma deuxième oreille. Elle me permet de prendre du recul. Elle souligne des choses que je ne vois pas parfois. C'est vrai que c'est elle qui écoute dans un premier temps. Mes chansons, mes maquettes, on en parle, on en discute. C'est elle, à part en dehors de mon mari qui est pas ouais. loin dans la pièce, oui, dans les pièces
et,
à côté.
Et qu'on salue.
Mais voilà, Judith, c'est une vraiment quelqu'un en qui je fais une totale confiance et on se connaît bien maintenant. Et
oui, 20 ans, c'est quelque chose
oui,
en
oui.
soi.
J'ai beaucoup d'affection pour elle. Vraiment, c'est un petit peu, c'est tous les sentiments qui viennent quand je parle d'elle, c'est presque ma sœur, c'est une alliée dans le travail. C'est important d'avoir quelqu'un comme ça.
Oui, je pense, surtout
oui,
quand
oui.
tu es chanteuse.
Parce que vous savez, souvent, quand on fait, quand on se produit sur scène, les gens viennent vous féliciter, les gens. Mais moi, je n'aime pas forcément être brossée dans le sens du poil tout le temps. J'aime les discours constructifs qui vont me faire avancer. Et je sais que tous les artistes ne supportent pas forcément ça, mais moi j'ai besoin qu'on... Voilà, je suis parfaitement lucide sur tout ce que je fais. Parfois j'aime bien qu'on me souligne un point où je dis même à mon équipe quand on travaille, quand on répète, s'il y a quelque chose où je suis trop speed dans le temps ou si je chante faux sur une phrase, vous me le dites parce que moi ça me fait travailler. Là-dessus, je suis très à l'écoute parce que ça fait avancer tout simplement.
Bien sûr. Nous étions est une chanson de l'album et raconte une histoire d'amour qui dure, qui reste solide malgré oui. le temps qui passe et plutôt grâce au temps qui oui. passe cette fois-ci.
Je lui ai enfin trouvé un point positif à ce temps qui passe.
Ça.
J'ai cherché mais j'ai trouvé ça.
Aujourd'hui, collectivement, quel est notre rapport au temps? Est-ce que la société nous permet de le modeler, de le prendre, de le perdre?
Le rapport au temps est plus compliqué, je trouve. Par exemple, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est le terme « être oisif », qui à un moment donné pouvait être quelque chose qui pouvait être vu de façon très négative, mais je trouve qu'à notre époque, c'est presque un luxe, puisque tout va très très vite.
Oui, on en parle souvent.
On agit vite, on a les informations qui arrivent de toutes parts, tout va très très vite, on communique très vite. Parfois aussi, on est toujours pris par quelque chose, nos yeux, nos oreilles, et parfois se poser, ne rien faire, rêver, c'est reprendre des forces, de l'énergie, et il faut savoir le faire. C'est difficile, je trouve, dans notre société de pouvoir le faire.
Oui, oui, je pense qu'on est sursollicité et que précisément, c'est presque une épreuve maintenant de prendre.
Donc, des termes comme oisif ou même, j'irais même jusqu'à paresse. Pourquoi pas?
Ennui.
Oui.
Et alors, pour cet album, tu as presque troqué les autres instruments pour un piano. Un beau piano droit que je sais qu'Amel qui donne sur les toits.
Presque.
Et que tu t'es approprié jusqu'à faire une chanson, Huit Clos, qui est un solo de piano, n'ayons pas peur des
C'est
des
un instrumental, on va dire, oui, parce que solo, je sais pas. En fait, je me suis raconté surtout mon histoire durant l'enregistrement. Il n'était pas prévu, cet instru.
Ah,
au départ, okay. Il n'était pas du tout prévu. Une fois que j'ai livré mes huit chansons, puisqu'il y a huit chansons plus cet instru
oui,
dans mon
tout,
album.
Il y a neuf pistes.
Voilà. Une fois que j'ai livré mes maquettes aux réalisateurs Sayem et Sébastien Berthaud, les deux personnes avec qui j'ai travaillé, je leur ai demandé plein de choses, qu'on emmène les sons plus loin, qu'ils me proposent des sons actuels surtout, ça c'était important. Et on a travaillé par Internet, on s'envoyait par fichier, j'aurais dit voilà, ça je tiens à cette ligne de basse, mais le son ça va pas. Et eux, ils mettaient parfois une semaine à me répondre, parfois deux semaines. Et moi, je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire, à attendre. Au début, j'étais bien sage, mais après, je dis, c'est pas possible, ça me rendait malade presque. Donc, j'ai pris mon piano.
D'être oisive.
Voilà. Non, mais oui, mais parce que j'étais en attente de quelque chose, donc ça paralysait un peu. Je me suis dit, non, fais-en quelque chose de tout ça, et puisque tu es dans l'attente, écris cette attente. Et j'ai de jour en jour, durant mes heures d'attente, mes retours de Sayem et Sébastien, j'ai écrit. Chaque jour, cet instrumental. C'est un peu la BO de tout ce qui s'est passé.
Et justement, tout à l'heure, tu parlais de te renouveler. Est-ce que te mettre au piano, c'était un enjeu pour l'album ou pas du tout ?
C'était un petit challenge parce que j'ai fait ça de façon très autodidacte.
Ouais.
Mais c'était aussi une façon de dire tout est possible à n'importe quel âge. J'aime bien cette idée. Parce que souvent, on se prive des choses. On se dit, non, je ne vais pas commencer le piano. Je vais avoir 50 ans, ce n'est pas possible. Mais si on peut, si on aime faire quelque chose, si on est attiré par un objet.
Oui, si on n'aime pas forcément, mais si on a envie de le faire.
Oui, c'est l'envie qui prime. Et ça, c'était aussi c'est un petit message, quelque part, que c'est possible.
Est-ce que ça modifie ta façon de chanter un nouvel instrument ?
Ma façon de composer.
De composer, ouais.
Certainement. Ma façon de chanter. Je ne sais pas vraiment si ça modifie ma façon de chanter. Ma façon de chanter, souvent j'écris mes instrus, je cherche des phrases, tout vient en même temps. Moi, c'est très lié, le texte et la musique.
Ouais.
Et puis après, je me retrouve devant mon micro. J'essaie des choses. J'aime bien travailler chez moi. Parce que je sais qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je peux ouvrir mon micro et je peux refaire autant de fois que je veux. Je peux me permettre toutes les libertés. Après, je vais en studio aussi et je compare ce qui est mieux en studio ou à la maison.
Et souvent ?
Alors j'ai on parlait de ma manageuse tout à l'heure, Judith Lévy. Elle m'a dit, ça fait beaucoup d'albums que tu fais chez toi. Essaie aussi d'accepter d'avoir un retour sur ta voix et de chanter devant les autres.
Ouais, d'être soumise au jugement aussi.
Voilà, et puis d'avoir comme un public, ça donne aussi autre chose. Et alors je lui dis, ok, moi je vais le faire, mais je ferai quand même chez moi et on comparera. Et il se trouve que là, ça a mieux marché. La plupart des titres que j'ai gardés ont été ceux qui ont été enregistrés en studio. Il y avait un enjeu quelque part, un petit enjeu de chanter devant Sayem, Sébastien, ceux qui m'entouraient. Donc ça donne quelque chose de différent.
C'est un album, à vrai dire, assez éclectique selon moi. On sent que tu t'es amusé à le faire. Tu chantes a cappella, tu parles, il y a même des touches d'électro. Tu parlais tout à l'heure de te renouveler. C'est pas trop difficile de lâcher cette sacro-sainte guitare avec laquelle on t'a beaucoup connu et tout ce qu'elle implique, notamment auprès du public ?
Alors, c'était. Je me suis dit, concentre-toi sur ce qu'il y a de ludique, qui était le piano à ce moment-là.
Ouais.
La guitare, je savais que je pouvais la retrouver sur scène. D'ailleurs, elle fait partie de. Elle réapparaît sur scène, je lui ai fait une place. Mais parce que je savais que je ne pouvais pas tenir. J'aurais pas pu jouer tous les morceaux au piano sur scène parce que je veux un contact avec le public et j'aurais été trop stressée par ce nouvel instrument. Alors que la guitare, elle fait presque partie de mon corps. Je suis à l'aise avec, même peut-être plus à l'aise avec une guitare qu'avec juste un pied de micro et ne pas savoir quoi faire de mon corps. Donc cette guitare, évidemment, je lui ai fait une place et je compose toujours aussi quelquefois avec. Mais là, je voulais tourner une page, amener autre chose.
Et te renouveler encore une
fois.
Ouais.
Oui.
Et je précise d'ailleurs que tu seras le 12 décembre à l'Olympia, c'est ça ?
C'est ça, c'est très bientôt, ça passe
oui,
très
c'est,
vite.
C'est...
Oui.
Incessamment sous peu. Comment tu travailles ? Ton phrasé qui est assez vif, assez marqué. Est-ce que tu essayes d'insuffler une espèce d'esprit saccadé ?
C'est rigolo parce que le mot que tu emploies, saccadé, il y a une personne qui l'a employé à mon sujet. Ouais. Il y a pas mal d'années, quand je faisais les parties de Calogero, il m'a dit tu parles de façon saccadée et tu parles comme tu chantes.
Je ne suis pas persuadée que ça soit un point négatif, tu vois. Mais
Non, je ne dis pas que c'est un point négatif. C'est des choses dont je ne me rends pas forcément compte. Peut-être je l'ai accentué sur cet album, puisqu'il y a des chansons où il y a une espèce de flow qui pouvait exister sur un titre comme Du Courage, où il y avait aussi, on parle de saccadé, on retrouvait ça dans mon chant. Il y avait aussi Où j'irai cet après-midi. Plusieurs titres où, pour moi, c'est un prolongement, ce que j'ai fait là, mais j'ai accentué ma diction pour que le texte soit plus audible.
La pochette a été réalisée par Simon Kerola.
Oui.
Je vais la décrire. C'est une vitre brisée par un coup de poing et ton visage apparaît derrière. Enfin, on le distingue en tout cas. Est-ce que tu peux juste nous l'expliquer?
Alors, Simon Kerola, je l'ai rencontré par Instagram. J'aime ce réseau parce que c'est le réseau de l'image et je regarde beaucoup. Ça m'attire les photos. Et je suis tombée sur une de ces photos où c'était un jeune homme qui était sur un ciel bleu comme ça avec un pare-brise brisé. Et c'est comme si, en voyant cette image, j'avais reconnu tout mon album.
Oui, cette photo existait en fait.
Pas tout à fait. Non, pas tout à fait, parce qu'un photographe ne refait jamais la même image.
Oui, mais le schéma.
Voilà, moi j'ai reconnu des traits forts par rapport à mon album, le fait que ce soit je voulais illustrer le temps, mais je voulais trouver une manière poétique de l'illustrer. Et pour moi, ce pare-brise brisé, c'est un petit peu des marques qu'on peut avoir sur le visage qui vont s'accentuer, qui vont encore se fissurer, et je trouvais ça joli que ça soit sur un ciel bleu. Donc j'ai contacté Simon, qui est suédois. Et on a correspondu comme ça sur Instagram. Je lui ai dit, voilà, je lui ai dit ce que je t'ai dit, je reconnais mon album. Je lui ai fait écouter, je lui ai dit, j'aimerais bien que vous veniez faire les images à côté de Paris. On avait ça dans la campagne. Et il est venu, c'est un très jeune garçon, très doué. Et j'ai vraiment, toutes les images qui sont sur l'album, c'est j'ai vraiment eu la vision que je voulais sur
ouais, comme
véhiculer
une évidence,
en tout cas oui que je voulais véhiculer, et puis je trouve ça très poétique, très esthétique aussi, et il a rempli sa mission avec perfection.
Quelles sont les marques du temps, en parlant de ce pare-brise brisé, quelles sont les marques du temps les plus visibles sur cet album par rapport au premier,
au tout premier?
Au premier,
mon
avec,
tout premier album.
Au pluriel. Aux autres albums.
L'expérience,
j'imagine, mais...
Oui, la voix. Je pense que la voix, c'est très marquant, ma voix de mes débuts et celle que j'ai maintenant. Alors, je la comprends tout à fait. Ma voix de mon premier album sur La Grande Sophie s'agrandit. C'était une joie de rentrer en studio, une joie de mettre mes chansons sur un support, sur un CD, d'exprimer cette voix avec un sourire. Je mesure parfaitement la chance que j'ai de faire ce métier. J'ai toujours voulu faire ce métier depuis petite. Et ça a toujours été... comme on dit, calme ta joie, je n'arrivais pas à la calmer, quoi. J'étais ce bonheur, j'avais besoin de le transmettre. Et on le ressent sur beaucoup d'albums. Et là, je pense que ma voix est plus mature, je pense, maintenant. J'arrive à l'élargir beaucoup plus et à ne pas rester que sur cette énergie très... On m'a dit souvent chanteuse guillerette, mais pas... C'est pas que ça. Maintenant, j'arrive à me poser davantage. Et quand je propose, par exemple, quand je vais sur scène... je crois qu'il y a tout un parcours où il y a des musiques plus lentes, plus posées, une voix plus stable. Et puis parfois, j'ai envie d'aller dans une énergie où ma voix décolle. Je joue de tout ça maintenant beaucoup plus, oui.
Ça veut dire quoi, une chanteuse qui dure dans le temps? Puisqu'on vient de le dire, tu as fait beaucoup d'albums, je cite.
Enfin, j'en ai fait 8.
C'est pas mal, 8 quand même.
C'est pas mal. C'est vrai que quand on se retourne, c'est un petit peu vertigineux, mais rien à côté de longues carrières comme Françoise Hardy ou bien d'autres qui ont fait plus de 27 albums. Et ça, je trouve ça... Je me dis, cette façon d'arriver à toujours écrire, à être curieux, ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile, vraiment. La distance, en fait. La distance, une carrière. Oui, c'est...
C'est ça le plus difficile.
C'est ça le plus difficile, oui. Parce que c'est très facile de faire un premier album, un deuxième, surtout maintenant, avec l'informatique musicale. Tout le monde peut avoir une application et s'amuser à faire une chanson.
Et de ce fait, il y a beaucoup de concurrence.
Bien sûr. Et, mais après, il va falloir aussi se dire que dans le temps, encore avoir quelque chose à dire, amener des nouveautés aussi. Ça, c'est plus complexe, vraiment.
Se renouveler.
Oui, oui.
Quand est-ce que le temps ne t'échappe pas ?
Sur scène.
Sur scène.
Oui, oui.
Est-ce que tu saurais nous l'expliquer, ça ?
Quand on monte sur scène, bon déjà c'est la scène, c'est je l'ai choisi au départ. J'ai pas fait un album et puis après je suis montée sur scène. J'ai choisi d'apprendre sur scène, de traverser différents lieux comme des squats, des lieux minuscules comme des bars qui n'étaient pas conçus pour la musique, et d'arriver comme ça avec ma guitare, une grosse caisse au pied, et de jouer mes chansons que j'écrivais, de tester un petit peu comment elles étaient perçues, et j'ai eu des fabuleux retours puisque ce public m'a toujours été fidèle et me suit encore, d'avoir dans des bars comme ça un silence absolu, des gens qui écoutent, on se dit tiens il se passe quelque chose, j'ai envie de recommencer ça la semaine qui suit. Donc la question c'était
la question c'était quand est-ce que le temps ne t'échappe pas
et
sur scène.
Le temps sur scène, je trouve que moi qui aime regarder les autres, je suis une observatrice avant tout, et quand je suis sur scène j'aime voir les regards. J'aime voir, je me dis toujours que quand je pars sur les routes, c'est avant tout une liberté absolue de tout quitter et d'aller là où vivent les gens et d'amener des petits bonheurs. Je sens que les gens viennent me voir et me disent « Oh, vous nous avez transmis quelle pêche, quelle énergie !» Ils repartent avec quelque chose qui, j'ai l'impression, leur fait du bien. Et moi, ce partage de la musique, cette énergie qu'on a partagée ensemble, me fait du bien aussi. Et je ne peux pas être autre part que dans le présent. Je suis face à eux, je les regarde, et puis on va vivre quelque chose d'exceptionnel puisque chaque soir est différent.
Lorsqu'on parle de temps qui passe, on peut penser au temps de ta carrière de chanteuse dont les envies et l'écriture évoluent, on vient d'en parler. Est-ce que tu aimes l'exercice de rechanter tes tubes, tes titres d'il y a 5-10 ans ?
Oui, d'ailleurs, certains titres comme Du Courage, où on savait... moi, ce qui me plaît, c'est de les remettre au goût du jour.
Parce que eux sont... Enfin, on est obligé, je pense, de te les demander sur scène.
Oui, et je comprends, parce que moi aussi, quand je vais voir un chanteur, j'ai envie d'entendre ces titres phares. Mais ce que j'aime faire, c'est, oui, trouver une version différente qui appartient à, là on est en 2019 par exemple, Du Courage à sa version de 2019, c'est un petit peu comme une collection dans la mode, je leur fais un nouvel habit,
la petite robe noire.
oui et mais oui moi c'est aussi une manière de garder une fraîcheur pour les chanter. Rien n'est figé, se dire que aussi en live rien n'est figé et que c'est vivant.
Oui, ne serait-ce que pour toi, c'est, je pense que ça peut devenir redondant de chanter.
Oui, bien sûr. Et je pense que le public aussi, maintenant le public qui me connaît, se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle va nous proposer ? Elle en a déjà fait 6 versions, quelle va être la 7e ? Est-ce qu'elle va arriver à faire ? Et dans la musique, ce qui est génial, c'est qu'il y a cette idée d'infini. Moi, parfois, je me dis, bon là, je sais pas, je ne vais pas pouvoir faire autre chose que j'ai déjà fait.
En version reggae, peut-être ?
Mais non, mais il suffit de se lancer, d'essayer, de ne pas avoir peur, encore une fois, ne pas avoir peur, et d'essayer. Et le côté parfois spontané gagne le dessus, et on se lance sur une phrase, on garde notre mélodie, bien sûr, mais on essaie des petits éléments autour, et on se dit, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux en 2019, 2020, sur la tournée.
Alors, on parlait de Françoise Hardy. Tu as écrit, tu écris encore pour les autres. Je pense notamment à la chanson Le Large de Françoise Hardy, il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, un titre de ton nouvel album, Où vont les mots, était pour elle à l'origine. Qu'est-ce que ça change d'écrire pour les autres ? Est-ce que c'est de l'ordre de l'exercice, du devoir à la maison, où tu arrives à en tirer quelque chose de personnel, voire à te livrer dans une perspective un peu d'intime ?
Alors déjà, il y a se dire qu'on va travailler pour quelqu'un d'autre, on va être à son service.
Oui, justement. Est-ce que ça te bride ou pas du tout ?
J'aime ça, en fait, parce que ça t'amène toujours quelque chose de nouveau, des éléments nouveaux. Tu réécoutes ce qu'a fait l'autre artiste, tu réécoutes et tu te dis, tiens, déjà tu rentres dans son monde et tu t'imprègnes. Et après, tu laisses venir les choses. Mais moi, je suis très à l'écoute aussi. Bon, j'ai la chance de correspondre avec Françoise Hardy. Donc, elle me donnait plein d'éléments puisqu'on Souvent, on s'écrit ce qu'on aime en musique, on s'envoie des fichiers, écoute ça, et puis j'avais beaucoup d'éléments et je me suis dit, déjà j'avais très envie, quand elle a écrit Personne d'autre, ce nouvel album, d'y participer. Donc je lui ai envoyé le large qui est venu en premier, qu'elle a adoré tout de suite, et je ne savais pas qu'elle allait adorer puisqu'elle écrit ses textes. Moi, je n'arrive pas à écrire la musique sans les textes, donc je me suis dit, bon, voilà, j'ai ce lot-là, elle enlèvera le texte si ça ne lui plaît pas, elle va pouvoir écouter la mélodie, et elle m'a dit, non, je garde tout, donc déjà, elle m'a fait confiance, c'était... c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est la chanteuse de l'intime. J'ai essayé d'être aussi dans un thème qu'elle avait déjà elle avait déjà chanté ce thème-là, mais j'ai voulu l'ouvrir en fait.
Alors, oui, ne pas la perdre, mais...
Ouvrir le thème, pour moi, le large, c'est pas forcément partir, ou il n'y a pas forcément la mort au bout. Il peut y avoir ça dans ce thème-là, mais c'est ouvrir aussi sur prendre le large, prendre sa distance aussi par rapport à une longue carrière comme elle a. C'est aussi cette distance-là, prendre le large, c'est un petit peu s'éloigner, prendre du recul... Donc il y a aussi ce thème-là qu'elle n'a peut-être pas voulu voir. Elle y a vu autre chose, mais pour Où vont les mots, par exemple, je lui ai posé la question clairement. Je lui ai dit qu'est-ce que tu veux chanter et qu'est-ce que tu aimerais chanter, quel thème tu voudrais aborder. Et elle m'a dit cette phrase qui m'est restée. Moi, tu sais, Sophie, toutes mes chansons tournent autour du même pot. Et ce mot « pot » est resté coincé dans mon oreille. Je me suis dit « Ah oui, où vont les mots quand ils tournent autour du pot ?» J'ai écrit ça en une après-midi, je lui ai envoyé. Mais elle m'a dit « Non, cette chanson, elle est pour toi, elle n'est pas pour moi. »
Est-ce que tu aimerais écrire pour le cinéma ou les séries ?
J'adore la musique à l'image, oui, parce que j'ai la chance de le faire pour un réalisateur de téléfilms. J'ai fait 3 musiques de téléfilms pour Arnaud Mercadier, dont le dernier s'appelle La disparition inquiétante. C'est avec Sarah Forestier, Pierre Rochefort. Et là, il va y avoir une suite, donc je vais travailler dessus. C'est pas une série, mais c'est des unitaires.
C'est l'idée, en tout cas.
J'adore faire ça parce que ça me plonge dans un cocon. Je fais ça vraiment toute seule dans un premier temps, puis après je prends un mixeur qui remixe tout ça, mais c'est une autre manière de travailler où on est vraiment sur l'instinct, la spontanéité. Ça va très vite pour la télé, en tout cas il faut aller très vite, on demande parfois beaucoup de musique même, et j'ai une autre façon d'aborder la musique. Je me pose moins de questions, je partage ce qui me vient, j'écris assez rapidement, j'envoie au réalisateur, je dis tiens ça je le vois là, lui après va me dire ah ben non mais moi je le vois pas du tout là, je le mettrais plutôt là, donc il y a tout un dialogue entre nous où les perceptions sont parfois différentes, mais où je trouve un autre plaisir de, encore une fois, être au service d'une histoire, être au service d'un réalisateur, être au service de scènes que je vois, parce que je vois les rushs aussi. Et c'est une autre manière d'aborder la musique. Ouais.
Tu vas avoir beaucoup de concerts ?
Alors, en ce moment, oui, parce que je suis sur scène, donc j'y vais peu. C'est plus... À un moment donné, j'avais ce besoin de tout le temps sortir. C'est plus forcément... j'aime bien aussi profiter des moments où je peux être chez moi, où je peux être dans le silence aussi. C'est important. Le silence, je l'apprécie peut-être plus qu'avant. J'en ai moins peur. Au départ, quand j'étais sur scène, à mes débuts, j'avais beaucoup peur du silence. Je laissais aucun blanc, j'enchaînais tout, je sortais de scène, j'étais épuisée. Maintenant, non, je pense qu'un silence peut dire beaucoup. Et d'ailleurs, je peux en marquer parfois sur scène, prendre le temps de ce silence, regarder les gens. C'est une virgule importante qui veut dire autre chose.
Et qui n'est pas grave.
Non, c'est, je sais qu'en radio, parfois, les gens ont peur des silences, mais ça fait partie des petits soupirs qu'il faut accepter.
Quels sont tes premiers émois musicaux ?
Mes tout premiers ?
Je pense à Pretenders.
Ah oui, bien sûr, ça a été un très grand souvenir. Pretenders, c'était mon adolescence. J'avais déjà mon groupe et le jour de mes 18 ans, je suis allée voir, c'était dans le sud de la France, il y avait U2, UB40 et Pretenders. La tête d'affiche était U2. que tout le monde voulait voir. Mais il se trouve que Pretender, ça a ouvert. Et là. C'était là, j'ai eu une révélation. Je me suis complètement identifiée à Chrissy Hynde, une fille leader d'un groupe comme ça, avec sa guitare électrique. Je suis sortie de là, ça a confirmé tout ce que je voulais faire, puisque je voulais faire ça depuis l'enfance. Mais quand j'ai vu Chrissy Hynde, ça a été sa voix, son énergie. Je les ai vues à diverses reprises, notamment une fois au Bataclan. Et je me souviens, je suis arrivée dans la salle, j'ai pu me faufiler dans les premiers rangs. Elle a lancé son médiator. Je l'ai beaucoup raconté sur scène, cette histoire. Tout le monde s'est battu pour récupérer le médiator de Chrissy Hynde et il m'est tombé sur le bras gauche. Donc je l'ai pris comme un signe et je l'ai récupéré. Je l'ai toujours d'ailleurs, c'est un petit porte-bonheur que je garde chez moi.
M'étonne. Et enfin, une dernière question que je pose à tous mes invités. Quels sont tes derniers coups de cœur culturels ?
Alors, mes derniers coups de cœur culturels, j'adore... J'ai passé un été à lire Fab Caro.
C'est génial.
Fab Caro, il a le don de me faire... Excusez-moi l'expression, mais pouffer de rire. C'est... Ouais. Non, c'est une expression, c'est vraiment, je glousse de rire, j'explose de rire et je me sens obligée, même quand je lis Fab Caro, de partager ça avec mon entourage. Je dis non, mais attends, il faut que je te lise ça. Et je lis la scène c'est vraiment, il m'amène beaucoup de bonne humeur. J'ai même lu son roman que j'ai beaucoup aimé, Figurec. Le deuxième, je l'ai acheté, je n'ai pas encore eu le temps de le lire.
Comment il s'appelle déjà ?
Le discours.
Le discours.
Figurec, c'était génial aussi l'histoire. Donc, j'ai eu mon été Fab Caro. Là, par exemple, dernièrement, il y a quelques semaines, j'ai découvert une pianiste québécoise qui s'appelle Alexandra Strelinsky. Je l'ai découverte un petit peu par hasard, mais quand j'ai entendu son jeu et ses compos, c'est comme si elle me tendait la main, qu'elle m'amenait dans un univers qui était proche de tout ce que j'aime en piano. J'aime beaucoup l'univers de Joe Hisaishi. Le compositeur japonais.
Okay.
Et j'ai trouvé, voilà, ça faisait écho à ses compositions, faisait écho à tout cet univers-là. Donc j'ai écrit un petit mot. Je lui ai dit que j'aimais beaucoup et j'espère qu'on se rencontrerait.
Le message est passé. Merci beaucoup, Sophie.
Merci. Il y a un truc qui m'est pas revenu. Ah non, ça y est, oui. La disparition inquiétante, c'était le téléfilm. Et c'était quoi au début que j'ai zappé qui m'est pas revenu ?
Ah ben, alors je ne sais pas.
C'est toujours dans l'air, ça va, c'est en train de faire un petit cercle là-haut.
Je mettrai peut-être
et ça va peut-être revenir dans une heure, mais tu seras plus là. Et...
Plus personne sera là. Merci beaucoup.
Merci.
Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec la grande Sophie vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Mais aussi à vous abonner au podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts s'il vous a plu, car c'est de toutes ces manières que la quille pourra grandir et se développer. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.